Bonjour à tous. Il est temps pour nous de commencer ce premier culte de l'année 2020. Je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait pour chacun de nous durant l'année passée. Et nous croyons qu'il va être aussi présent, parce qu'il est toujours présent avec nous, durant cette année 2020. Et comme n'est pas coutume, j'aimerais vous souhaiter une heureuse année en Jésus-Christ. Et je souhaite à ceux et celles qui soupirent de continuer à soupirer jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Comme nous dit le psaume 42 au verset 1er, j'ai dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et ceux qui courent, je vous souhaite de continuer de courir tant que vous n'avez pas atteint votre but. Philippiens 3 au verset 14 nous dit « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Et ceux qui luttent, de continuer de lutter. Et ceux et celles qui résistent, de continuer à résister, comme nous dit Hébreux, en fait, au chapitre 12, verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et ceux et celles qui attendent des réponses, je vous souhaite de mieux demander encore. Donc, Jacques 4, verset 3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Mais Romains 8 aussi, nous dit, au verset 26, nous dit « De même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et ceux et celles qui prient, je vous souhaite de continuer de prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit « Priez sans cesse. » Et vous qui pleurez, je ne vais pas vous dire de continuer de pleurer, mais je vous dis de sécher vos larmes. Apocalypse 21, verset 4 nous dit « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. » Et arrêtez de pleurer, car vous n'êtes pas sans espérance. Colossiens 1, verset 27 nous dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Enfin, ceux et celles qui louent, je vous souhaite encore de continuer à louer Dieu. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 18, qui nous dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté de Dieu à exprimer en Jésus-Christ. » Mais n'oubliez pas aussi d'adorer, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'adorer. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche des hommes et des femmes qui l'adorent ainsi. Jean 4, verset 23. Et vraiment, ce sont mes vœux pour vous et pour nous, pour cette année 2020. Que nous puissions ne pas oublier d'être de véritables adorateurs. Je viens t'adorer, Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour chanter ce chant ?
Vivre près de toi. lorsque mon âme est comblée. C'est ton sacrifice qui fait tomber mes chaînes pour me rendre esclave de Jésus-Christ. Je veux tout donner et mourir à moi-même pour que règne en moi ton Saint-Esprit, vivre près de toi. Je veux m'attacher à faire ce qui te plaît. Apporter ma prière, dire tout simplement, je t'aime Jésus, je veux me livrer, contempler le mystère du roi crucifié, pour mon salut, vivre près de toi, je veux m'attacher à faire ce qui te plaît. Que mon âme est comblée, c'est ton sacrifice qui fait tomber mes chaînes pour me rendre esclave de Jésus-Christ. Je veux tout donner et mourir à moi-même pour que règne en moi ton Saint-Esprit, vivre près de toi. M'attacher à faire ce qui te plaît, vivre près de toi. C'est dans ta présence que mon âme vive, vive, vive.
Seule présence, Seigneur, que mon âme est comblée, Seigneur, que notre âme est comblée, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, t'offrir tout simplement notre vie, éternel Dieu. Notre vie, Seigneur, cette vie si chère à tes yeux, éternel Dieu, nous voulons te la donner, Seigneur. Et nous voulons encore nous consacrer à toi, Seigneur, durant cette année, Seigneur. Vraiment, Seigneur, décider, Seigneur, d'être de vrais adorateurs, Seigneur. Des personnes, Seigneur, qui te louent et qui t'adorent, Seigneur, quelles que soient les circonstances, Seigneur, et qui prient en tout temps, éternel Dieu. Vraiment, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, pouvoir entrer dans ta présence constamment, Seigneur, et y rester, Seigneur. Vraiment, Seigneur, c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Vraiment, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur. Et de nous conduire dans tes voies éternelles. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu as prévu de faire encore pour nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, simplement, Seigneur, d'avoir les bras tendus vers toi, éternel Dieu, et d'accueillir tout simplement, Seigneur, et avec patience et amour, Seigneur, tout ce dont tu as mis en réserve pour nous, Seigneur, et de ne pas nous laisser troubler, Seigneur, par quoi que ce soit, éternel Dieu. Merci, merci Jésus, Seigneur, d'être avec nous. Merci Père, Seigneur, de nous soutenir encore, encore et encore, éternel Dieu. Vraiment, Seigneur, et c'est encore et encore que nous voulons encore te louer. Merci, Seigneur, pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons passer ce temps de Sainte-Seine.
De mon salut par la présence du Seigneur Jésus, sans mal laver victoire, c'est là mon chant. Loué mon sauveur, le jour du rang, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Loué mon sauveur, le jour du rang, loué mon sauveur, le jour du
Amen. Il est bon de louer Dieu, il est bon d'adorer Dieu. Parce qu'il a le nom le plus excellent. Parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est notre Sauveur. Seigneur, il y a les paroles, Seigneur, aussi qui mènent à la vie et à la vie éternelle. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Prendre ce chant dans un esprit d'adoration.
Un
Seigneur, tu es le plus beau, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, Seigneur, je veux aussi te rendre gloire. Parce que tu es le Dieu éternel. Tu es celui plein de compassion, plein de miséricorde, plein de sagesse, plein de compassion. Et c'est vraiment toi, Seigneur, que je veux adorer, Seigneur. Parce que toi seul en es digne. Amen. Magnifique est notre Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je veux te chanter, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je veux te louer, Seigneur. Parce que tu es le Dieu plein d'amour, plein de puissance, plein de grâce. Magnifique es-tu, Seigneur.
Je veux t'adorer de toute ma force.
tu es mon Dieu.
Ton amour,
ta puissance,
ta présence dans ma vie,
ton amour,
ta puissance,
ta présence dans ma vie,
et je veux t'adorer.
Je voudrais encore, et nous voulons vous inviter encore à vivre tout simplement pour le Seigneur. Et durant cette année, encore de vous attacher encore à lui davantage. Je crois qu'on n'est pas suffisamment attaché au Seigneur. Donc tant qu'on peut le faire, faisons-le. Restons dans ses voies. Et devenons vraiment des adorateurs selon le cœur du Père. Je viens t'adorer.
Vivre près de toi.
faire ce qui te plaît, vivre près de toi. C'est dans ta présence que mon âme est comblée. C'est ton sacrifice qui fait tomber mes chaînes pour me rendre esclave de Jésus-Christ. Je veux tout donner.
Seigneur, toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.
Bonjour bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce, n'est-ce pas, en ce début de l'année, en ce premier jour de l'an de 2020, d'être dans sa présence. C'est un privilège et c'est une grâce. J'aime toujours à nous rappeler que ce n'est pas le cas partout dans le monde, qu'il y a des pays, qu'il y a des régions dans le monde où nos frères dans la foi n'ont pas cette liberté. Et nous devons remercier le Seigneur et le bénir à chaque fois qu'il nous permet de le faire. En ce premier dimanche de 2020, j'aimerais nous inviter à méditer notre foi en Jésus-Christ. Le thème que je vous propose, en fait, ce n'est pas des thèmes. C'est tout un projet. Hein. Mais en même temps, c'est des déclarations assez fortes, n'est-ce pas? Puisse ton Dieu, que tu sais avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. On le retrouve dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 29. Et je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé spirituelle. La troisième épître de Jean, verset 2. Pourquoi ces deux sujets, pourquoi ces deux textes ce matin? Le premier, celui du livre de Daniel, qui va faire l'objet de notre méditation, parce que durant ces deux derniers dimanches, nous avons passé du temps dans l'une des épîtres du Nouveau Testament, sinon l'un des livres, le dernier, l'Apocalypse, la révélation de Jean, au chapitre 2. Et nous avons passé du temps sur ce chapitre 2, n'est-ce pas, l'église d'Éphèse. Ces deux livres, celui de l'Apocalypse de Daniel, sont très rapprochés. Le livre de Daniel est un livre qu'on dit parfois aussi un livre de la révélation. Hein. C'est le genre apocalyptique, donc le genre révélation. Les sept derniers chapitres du livre de Daniel sont consacrés à des révélations que Dieu lui fait sur la fin des temps, sur la fin de certains empires de l'époque de Daniel. Mais en même temps, Daniel fait des révélations sur la fin des temps derniers. Et justement, dans l'Apocalypse, l'Apocalypse reprend quelques thématiques du livre de Daniel, n'est-ce pas? Donc c'est en lien avec ce que nous avons déjà vu que j'ai à cœur, en tout cas poussé par le Saint-Esprit, de nous inviter à réfléchir sur le personnage de Daniel. Daniel est un juif né dans sa patrie. Je crois 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Il était tout jeune quand Israël pêche et que Israël va être vaincu par la guerre. La guerre, ce n'est pas un jeu. Parfois, et aujourd'hui, beaucoup de nos enfants, et moi qui vous parle aussi quand j'étais un peu plus jeune, nous jouons à ces jeux de guerre sur nos consoles vidéo. Mais la guerre, ce n'est pas un jeu. Et à cette époque, il y avait beaucoup de guerres, à l'époque de Daniel. Et justement, l'un des empires les plus puissants de l'époque, qui est l'empire babylonien, avait vaincu l'empire égyptien. Et en descendant de cette victoire, le roi, l'empereur babylonien d'alors, Nebuchadnezzar, a fait le siège de Jérusalem, a vaincu Israël parce qu'Israël avait désobéi à son Dieu. Et Israël est tombé en ce moment-là, en 605 avant Jésus-Christ. Et Nebuchadnezzar a eu la bonne idée de prendre parmi les Juifs les jeunes les plus intelligents pour les emmener avec lui à son service, de les arracher à leur terre, à leur famille, à leur patrie. Et Daniel fait partie de ces jeunes qui ont été emportés. À l'époque, quand on fait l'étude de ce texte et qu'on regarde toutes les données historiques, à l'époque, on pense que Daniel avait 16 ans lorsqu'il est parti en déportation, captivité. Vous savez, à 16 ans, on t'arrache de ta patrie, on t'arrache de chez toi et tu vas dans un pays qui n'a pas les mêmes coutumes que toi, qui n'a pas les mêmes habitudes que toi. Tu es né dans un peuple qui adore le vrai Dieu et tu vas dans une patrie où on adore plein d'idoles. Et Daniel et ses copains ont été choqués parce qu'ils ont vu quand ils sont arrivés à 16 ans. Ils ont dû se positionner, ça n'a pas été simple. Et quand on lit tout de suite les premiers chapitres, on voit que Daniel et ses compagnons se positionnent en décidant de ne pas adorer les dieux de ce peuple. Ça leur a coûté quelque chose très tôt. Ça leur a coûté l'animosité, l'inimitié. Parce que ce peuple vainqueur disait, mais qui sont ces jeunes? Qui êtes-vous pour décider ce que vous voulez adorer ou pas? Et en fait, à cette époque, lorsque ton peuple est vaincu, c'est aussi ton Dieu qui est vaincu. Et les Babyloniens disaient que leur Dieu était plus puissant que l'Éternel des armées, puisqu'ils avaient vaincu Israël. Mais Daniel et ses compagnons ont dit, nous avons grandi dans cette confiance en ce Dieu. Et même si nous sommes en déportation vaincus, c'est de notre faute à nous. Et Daniel le dira plus tard dans l'un des chapitres, c'est nous qui avons péché. Ce qui nous arrive est de notre faute. Parce que nous n'avons pas obéi à notre Dieu, qui lui nous protégeait pendant tous ces siècles. Nous avons désobéi. Et la désobéissance envers Dieu se manifeste dans le sens où des choses, quand on désobéit à Dieu, ce n'est pas juste dans notre relation de piété. Ça prend aussi des allures dans la société. L'amour fraternel, le respect des uns des autres, l'égard pour les pauvres, la distribution des biens. Et tout ça a été remis en cause en Israël. Et donc c'est un ensemble d'événements. Et Daniel le dira. Mais par contre, Daniel dit, nous nous positionnons par rapport à notre Dieu. Et ce chapitre 6, ça arrive 66 ans après. Daniel est arrivé à 16 ans dans ce royaume. Et ce chapitre 6, ça arrive 66 ans après. Daniel a 80 ans quand on lit ce chapitre 6. Voilà 66 ans qu'il vit dans cet empire qui ne connaît pas le vrai Dieu. Mais sa foi n'a pas cessé d'être remise en cause. Et quand on lit bien les 5 chapitres, Daniel et ses compagnons ont toujours résisté en disant, oui, de toutes les façons, on n'a pas le choix. On est aujourd'hui ici dans cet empire qui n'est pas de Dieu. On a décidé d'y vivre, d'adopter un certain nombre de coutumes et de façons de faire qui sont dans cet empire. Par contre, tout ce qui remet en cause notre foi en Dieu, nous ne nous plierons pas à cela. Donc on voit que Daniel vit assez bien dans cet empire. Il s'accommode à la façon de vivre de cet empire, mais garde l'essentiel de la foi en Dieu. Et je vous invite donc à lire, après avoir fait ce contexte, n'est-ce pas? C'est un texte qui est long, j'aimerais le lire en entier. En ce début d'année, j'aimerais que nous lisions la parole de Dieu en entier. Daniel chapitre 6, à partir du verset 1. Et Darius le Mède, âgé d'environ 72 ans, accéda au pouvoir impérial. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus de 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts de l'empereur soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Et bientôt, il se révéla plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi l'empereur songeait à le mettre à la tête de tout l'empire. Alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'empire. Mais il ne put découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Ces hommes-là conclurent donc, « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. » Alors, ses ministres et ses satrapes se précipitèrent chez l'empereur et lui parlaient ainsi, « Que l'empereur Darius vive éternellement. » Tous les ministres de l'Empire, les préfets, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs ont décidé à l'unanimité, en conseil, qu'il fallait publier un édit impérial pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque pendant les 30 jours qui suivent adressera une prière à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, l'empereur Darius signa le décret portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors ses hommes firent irruption chez lui et le supplient en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, il se rendit chez l'empereur pour lui parler de l'interdiction impériale. « N'as-tu pas signé un décret d'interdiction » dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque Dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, serait jeté dans la fosse aux lions. L'empereur répondit, il en est bien ainsi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Eh bien, reprit-il, Daniel, l'un des déportés de Juda, ne t'a pas obéi, majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. 3 fois par jour, il fait sa prière. Lorsque l'empereur entendit ces paroles, il fut vivement peiné et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ses hommes se rendirent ensemble chez l'empereur et lui dirent, « Sache, majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par l'empereur soit irrévocable. » Alors, l'empereur ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit, « Puisse ton Dieu, que tu sais, avec tant de persévérance, te délivre lui-même. » On emporta une grosse pierre et on la mit devant l'entrée de la fosse. L'empereur y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, l'empereur rentra dans son palais et le refusa tout divertissement. Mais il ne parvint pas à s'endormir. Dès le point du jour, l'empereur se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer ?» des lions. Alors Daniel répondit à l'empereur, « Ô majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. » Alors l'empereur éprouva une grande joie et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Là-dessus, l'empereur ordonna de lui amener ses hommes qui avaient accusé Daniel et il les fit jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse que déjà les lions s'emparaient d'eux et les broyèrent les os. Alors l'empereur Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux gens de toute langue qui habitent la terre entière, que votre paix soit grande. Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté ne prendra jamais fin. Il délivre et il sauve. Et il accomplit des merveilles, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a arraché Daniel de la griffe des lions. Verset 29, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous celui de Cyrus le Perse. Amen. Jusque-là, la parole de Dieu. Quelle histoire! Une histoire vraie. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire montée. Tous les personnages et les lieux géographiques, historiques cités dans ce texte sont bel et bien identifiés dans notre histoire humaine. Daniel a bel et bien existé. À cette époque, voici bientôt 66 ans qu'il sert ce royaume, cet empire, en gardant la foi en son Dieu, en ne louant pas, en n'adorant pas les idoles des Babyloniens. Et tout le monde le sait. Et malgré cela, on lui en veut encore, n'est-ce pas? Il a une compétence professionnelle qui est éprouvée par l'expérience de Daniel au travail. Daniel est loin de celui, mais il ne s'apitoie pas sur son sort. Au contraire, il dit, si Dieu m'a envoyé là, lui seul, il sait pourquoi. Autant m'accommoder et travailler, comme je sais le faire. L'expérience professionnelle de Daniel est remarquable dans ce début de texte, n'est-ce pas? Alors que le roi, ce nouveau roi, qui a succédé à deux autres, à trois autres, veut continuer à diriger son empire. Il dit, je vais nommer des hauts dignitaires. Et parmi eux, il y a quelqu'un qui a une compétence professionnelle, qui s'appelle Daniel, qui n'est pas un Babylonien, qui n'est pas un fils du pays, mais qui est compétent, dont les compétences sont avérées. C'est un juif que nous avons ramené de la captivité. C'est donc un esclave. Mais un esclave qui a montré sa compétence et qui a acquis sa dignité par l'ouvrage de ses mains et par la qualité de sa fidélité à son Dieu. Et quand l'empereur songe à établir quelqu'un après lui qui, lui, managera toute cette équipe administrative, on dit il songe à Daniel. Ils sont trois qui sont tirés du lot et parmi ces trois, il y a Daniel. Et c'est à Daniel que l'empereur pense. Et les deux autres rentrent en jalousie en ce moment-là. Vas-y, s'il te plaît. Daniel est l'un de ces trois. Et bientôt, il se révéla plus capable que les deux autres ministres et de tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. J'aimerais que chacun de vous à cet esprit extraordinaire. Or, pour ceux qui sont en Christ, vous l'avez. L'Esprit de Dieu est en nous, bien-aimés frères et sœurs. L'Esprit de Dieu est le gage de notre salut. La Bible dit que lorsque l'Évangile est prêché et que l'être humain reconnaît son état de pécheur et qu'il s'humilie et qu'il demande pardon à Dieu et qu'il accueille Jésus-Christ dans son cœur, Jésus vient habiter en lui et le scelle par son esprit. Et que c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Il dit, c'est par l'Esprit que nous crions « Abba, Père ». Cet esprit extraordinaire. La Bible dit, n'est-ce pas, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. As-tu reçu Jésus dans ton cœur? As-tu fait la paix avec ton Dieu? L'as-tu laissé te bonifier par son esprit? La diapo d'après, s'il te plaît. La méchanceté des ennemis de Daniel. Devant cet esprit simple, n'est-ce pas? Ce monsieur qui n'a pas besoin de promotion. Daniel ne cherche pas la promotion quand on lit ce texte. C'est pas lui qui se met en avant. Il fait son travail comme il sait le faire. Et c'est fort de ses compétences, de son intégrité, de sa probité et de sa qualité, de sa foi qu'il est nommé. N'est-ce pas? Et la méchanceté commence là. Et la méchanceté commence là. Les deux autres cherchent le poste. Les deux autres cherchent à être promus. Et ils voient un obstacle. L'obstacle, c'est celui qui n'a rien cherché, mais qui fait bien son travail et qui est attaché à son Dieu. Il faut éliminer cet obstacle. Il faut l'enlever de son chemin. Et ils disent, il faut qu'on regarde. On va les piller de près pour trouver la faille. Et le texte dit, avec tout le temps qu'ils ont pris pour épier Daniel, ils n'ont pas trouvé de faille. Pourquoi? Parce que Daniel n'était pas corrompu. Pourquoi? Parce que Daniel était digne de confiance. Pourquoi? Parce que Daniel était un bon travailleur quand il s'agissait d'exécuter sa responsabilité. C'est là que je fais un parallèle avec 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12. L'apôtre Paul dit dans ce 1 Thessaloniciens 4, pour nous qui sommes des croyants, il dit, et on l'a vu, nous qui avons fait l'étude dans le livret Cultiver les habitudes de cœur, il dit, cultivez les bonnes habitudes dans votre travail professionnel. Cultivez les bonnes habitudes dans votre lieu de vie séculier. Ce que vous avez à faire, faites-le bien. Honnêtement, on ne sera pas tous des prix Nobel de quelque chose, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de faire bien le travail que tu as fait. De progresser dans le milieu professionnel qui est le tien. De chercher à être qualifié pour bien faire ton travail. Pourquoi? Parce que bien faire son travail, c'est aussi faire du bien à la société. Si je fais bien mon travail en tant qu'enseignant, en tant que professeur, j'éduque une génération. J'apporte une éducation à une génération qui, elle, sera bien outillée pour la société. Si je fais bien mon travail en tant qu'infirmier, en tant qu'infirmière, je prends soin de la santé des gens. Si je fais bien mon travail en tant que quelqu'un qui travaille à la cantine scolaire, les enfants de cette cantine seront à même d'avoir un bon service. Peu importe finalement le type de métier que tu as, si tu le fais bien, tu fais du bien à ta société. C'est ça, Daniel. Daniel était juif, il n'était pas babylonien, mais il avait compris que bien travailler, c'était faire en sorte que chaque habitant de cet empire vive bien, même si c'était pour l'empereur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, que chacun s'attelle à bien faire son travail, de sorte que les hommes qui ne sont pas de Dieu puissent voir que vous êtes des gens fidèles dans ce que vous avez fait de vos mains. Et c'était le cas de Daniel, n'est-ce pas? Alors, vu tout cela, ils ont dit, c'est pas là qu'on va trouver la faille. Mais la faille, on sait où on va la trouver. Parce que ce gars-là, son affaire de son Dieu, depuis 66 ans, c'est là qu'on va la voir. Parce qu'il n'adore pas les dieux de notre peuple. Parce qu'il a gardé le dieu de son peuple avec lequel il est venu. C'est là qu'on va la voir. On va la voir sur quoi? Sur sa religion, n'est-ce pas? Sur sa religion. Sur la pratique de la loi de son Dieu. Ils ont vu pendant 66 ans quelqu'un qui vit avec un Dieu qui est tellement intime à lui qu'ils ont fini par dire le Dieu de Daniel. Ça veut dire beaucoup. Le Dieu de Daniel. Ils ne disent même pas le Dieu des Juifs. Ils ne disent même pas le Dieu d'Israël. Ils disent le Dieu de Daniel. Parce qu'il a une relation avec ce Dieu-là, Daniel. Et comme on le sait, même dans ce texte, on le voit, n'est-ce pas? Lorsque cette méchanceté se déclare, la fidélité de Daniel est encore précisée, n'est-ce pas? Mais Daniel, bien que connaissant le décret, suivit sa pratique habituelle. Et le texte dit, comme il le faisait auparavant. Lisez bien les textes. On dit, quand Daniel eut connaissance de cette interdiction, il n'a rien changé dans sa vie de croyant. Il n'a rien changé. Il n'a pas dit, oulala, 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 oulala. Peut-être que je me cachais. Peut-être que je vais essayer quand même d'être sage. N'est-ce pas? C'est là qu'on appelle la sage, quand même. Le Seigneur ne nous demande pas de nous exposer. Le Seigneur nous demande d'être sage. Peut-être que avant j'ouvrais les fenêtres de ma chambre haute, maintenant je vais les fermer, les fenêtres. Maintenant je fais croire aux gens que je ne prie pas trois fois par jour. Mais moi dans mon cœur je sais que je prie trois fois par jour. Non. Le texte dit, quand Daniel fut informé de cette indécision, il rentra dans sa chambre haute, les fenêtres ouvertes, il priait trois fois par jour comme auparavant. Fidélité à Dieu. Pour celui qui connaît le royaume, l'empire médo-perse, c'est un empire cruel. Vous avez vu tout à l'heure, à la fin du texte, comment même cet empereur a puni les ennemis de Daniel. Il n'a pas puni que les hommes qui ont fait ce malheur. Il a puni et les femmes et les enfants. C'est un empire très cruel. Donc, ce n'est pas un jeu quand on dit que l'empereur a pris un décret immuable, irrévocable. Daniel sait les enjeux. Il sait que c'est sa vie qui est en jeu. Parce qu'il est au cœur du pouvoir. Hein. C'est le troisième, il est le quatrième personnage de l'État. Donc, il sait. Donc, il ne prend pas cette menace à la légère. Mais en même temps, il ne change rien à sa vie chrétienne. Il ne change rien à sa vie chrétienne. Il ne change rien à sa foi. Hier, j'étais aux obsèques d'une dame de 85 ans. Et dans le témoignage qu'on a rendu de cette dame, elle n'a pas eu la vie facile. Elle est née un peu avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Elle était enfant en ce moment-là. Et la vie a été très difficile pour elle parce que sa famille a été malmenée par la guerre. Elle a été, en tant qu'enfant, confiée à la société. Et là où elle a vécu, il y avait régulièrement la famine. Donc, elle a développé des maladies très tôt parce qu'elle était régulièrement sous-alimentée. Donc, elle a grandi avec une fragilité. Et même quand elle était jeune, jusqu'à 18 ans, sa famille, elle avait besoin du secours populaire pour s'en sortir. Et à 18 ans, elle a rencontré le Seigneur justement parce qu'une église de son quartier offrait régulièrement un goûter aux enfants. Elle allait dans cette église protestante évangélique pour avoir quelque chose à manger. Et quand son père a su, son père leur a interdit d'aller là à cause du fait que c'était une église. Et à 18 ans, quand elle a eu la majorité, elle est revenue dans cette église. C'est là qu'elle a connu Dieu et qu'elle s'est fait baptiser et qu'elle s'est mariée quelques années après avec le fils du pasteur. Et son mari est devenu l'un des théologiens de renom de la France. Mais elle était toujours... Sa santé avait pris un coup, donc elle est restée malade toute sa vie, en fait. Très malade. Mais elle était fidèle à son Dieu. Et avec Dieu, elle a fait des choses incroyables. Mais c'est là que nous, on a su, parce que c'est une femme qui agit dans l'ombre. Son mari était très connu, mais elle, on ne la connaissait presque pas. Mais quand tu nous racontes tout ce qu'elle a fait dans le secret, mon Dieu, incroyable, malgré la maladie. Et les dernières années ont été foudroyantes parce qu'elle a eu un cancer très foudroyant. Et pendant son cancer, on dit qu'elle était tellement lucide qu'elle a donné tellement de beaux conseils à son mari et à ses enfants. Et qu'elle disait, à cause, pas simplement à cause de la souffrance, mais à cause de sa foi, ce que j'espère en ce moment, c'est d'être avec mon Dieu. Elle a cité une parole de l'apôtre Paul qui disait, être avec Christ, c'est ce qu'il y a de bien meilleur. Être avec Christ, c'est ce qu'il y a de bien meilleur. J'étais dans cette église, 85 ans, et je me disais, je ne sais pas à quel âge je vais partir au ciel, mais je me disais, est-ce que j'ai cette relation d'intimité avec Jésus, comme cette femme-là, 85 ans. Elle avait 18 ans quand elle a connu le Seigneur, elle est morte à 85 ans, et la vie ne l'a pas ménagée, et malgré cela, elle est restée attachée à Dieu, elle a servi son Dieu. La fidélité et la prière. Daniel, qui sait ça, rentre chez lui, il prie, et le texte dit, on peut voir dans sa prière deux sortes de prières. La première, c'est la louange à son Dieu. Comment dans une situation comme ça, tu peux louer Dieu alors que ta tête est mise à prix? Et lui dit, il rend grâce à Dieu. Oui, parce que voilà 66 ans que ce Dieu le garde dans ce peuple-là. Quand le vol de la tempête vient, ta sombrie, ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras. Combien le nombre en est. Daniel rend grâce à Dieu. Voilà 66 ans qu'il est en exil. Et il voit ce que Dieu fait. Les grandes choses que Dieu a faites. Mais en même temps, il dit, qu'est-ce que je veux faire, Seigneur? C'est toi qui sais tout. Et alors, que le roi cherche à le délivrer et qu'il n'arrive pas, parce que le roi sait que Daniel était quelqu'un de fidèle. Vas-y, s'il te plaît. Le roi qui a dit, lorsqu'il a capturé cet empereur et qui dit, j'ai pris ce décret, je ne peux pas m'en démettre, faites selon ce décret. Que Daniel est en train de te jeter dans cette fosse au lion, il dit, puisse ton Dieu, que tu sais, avec persévérance, que ce Dieu-là lui-même te délivre. Le roi est troublé. Ça nous rappelle quelqu'un. Ça nous rappelle le roi, sinon le gouverneur, qui a jugé Jésus. Lui aussi, il était troublé. Sa femme lui a dit, tu sais, cet homme est innocent. Et le texte dit, dans l'évangile, qu'il a cherché tous les moyens pour délivrer Jésus. Mais l'adversité était telle qu'à un moment donné, il a dit, je me lave les mains de cette affaire. Le sang de cet homme tombera sur la tête de vous qui êtes les chefs juifs de l'époque, pas sur moi. Parce que le texte dit qu'il savait que Jésus était innocent. Près de 8 siècles avant, c'est la même chose que Daniel vit. Et Darius dit, cet homme, franchement, il est innocent, mais je ne peux pas le délivrer. Et il est troublé toute la nuit. Et le texte dit, tôt le matin, il va à la fosse au lion. Daniel, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Et Daniel lui répond de la fosse, ô roi, vis éternellement. Oui, mon Dieu m'a délivré. Effectivement, il a envoyé des anges qui ont arraché ma délivrance, car ils ont bâillonné la gueule des lions. Et je suis bien vivant, je suis là. Le roi dit, faites-le sortir. Et le texte dit, le roi est rempli de joie parce que Il connaît la dignité de ce monsieur, il connaît la qualité de ce monsieur, il connaît la fidélité de ce monsieur. Il se doute bien que ce monsieur, depuis 66 ans, on le sait dans cet empire, il n'adore que son Dieu. Ça fait 66 ans qu'on le sait. Il n'a jamais caché son identité de croyant au Dieu d'Israël. Jamais en 66 ans. Et le roi se dit, ah, je comprends. Ses adversaires ont comploté justement pour me l'enlever. Il dit que mon Dieu m'a gardé parce que j'étais innocent, n'est-ce pas? Et parce que j'ai mis ma confiance en lui. Et nous, nous sommes innocents à cause de qui? À cause de Jésus-Christ. Celui qui était sans péché, Dieu l'a fait pécher à cause de nous. Celui qui était innocent a payé notre prix. Notre innocence est dans le prix de la vie de Jésus. Si Dieu nous voit saints, c'est parce que l'innocent Jésus a pris notre culpabilité. Et que lui n'est pas descendu juste dans la fosse aux lions, il est descendu dans l'âme de la mort. Et la mort a même eu raison de lui pendant 3 jours. Mais comme il était innocent, comme Daniel, la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité le 3e jour car il était innocent. Alléluia. Et ce témoignage, alors que pendant 30 jours, Darius avait été mis au rang de Dieu par le décret qu'il avait signé pendant 30 jours, on l'a adoré que Darius dans le royaume, dans cet empire. Dieu, au travers d'un petit bonhomme qui s'appelle Daniel, révèle finalement qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Ce n'est pas Darius. Parce que Darius n'a pas pu sauver même celui qui était innocent. Darius, avec toute sa bonne volonté, n'a pas pu sauver ce Daniel qui savait innocent. Donc que Darius soit Dieu et qu'il ne puisse pas sauver un innocent, c'est un contresens. Le Dieu éternel, le Dieu puissant qui sait tout, qui voit tout, lui il est capable. Et c'est lui qui a délivré Daniel. Et fort de cette délivrance, Darius dit, ok, voici la leçon que je dis. Un empereur païen, Darius ne s'est pas converti au Dieu d'Israël, mais il rend témoignage au Dieu d'Israël au travers de la personne de Daniel. Il dit, voilà le décret que je prends à partir d'aujourd'hui. Dans tout mon empire, on va craindre le Dieu de Daniel. Parce que c'est un Dieu vivant. Un peu comme s'il disait, nous, nos dieux, c'est des idoles un peu mortes, quand même. Parce que ce Dieu est un Dieu éternel. Son royaume est indestructible parce qu'il se souvient. Vous savez, les empereurs, ils ont des archives. Donc, il se souvient qu'à une certaine époque, ce Daniel et ses 3 compagnons ont été sujetés dans la fournaise ardente parce qu'ils avaient refusé de fléchir les genoux devant la statue d'un certain prédécesseur à lui. Et on les avait jetés dans la fournaise ardente, mais ils n'avaient été ni brûlés, et même le texte dit que leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée de cette fournaise. Il dit, voilà 66 ans que ce Dieu se manifeste ici à Babylone, au milieu de nos dieux, et qu'il remporte toujours la victoire quand on le confronte. Son royaume est indestructible, ce Dieu-là. Et pour toutes ces raisons, c'est un Dieu qui doit être vraiment révéré et adoré. Voilà le décret qu'il prend. Et quand on sait que les décrets de l'empereur Médo-Perse sont des décrets immuables et irrévocables, il a pris un décret comme ça, irrévocable. En dépit de toutes les oppositions, les adversaires de Daniel n'ont pas eu raison de lui. Cette déclaration est une déclaration qui retentit plus encore aujourd'hui que Jésus l'innocent qui a été accusé à tort, qui a été mis à mort à tort, qui est ressuscité le 3e jour et qui a montré sa résurrection et qui est monté au ciel et qui est notre avocat. Cette vérité est encore plus éclatante aujourd'hui parce que Daniel était une préfigure de Jésus, mais Jésus a rendu cela plus éclatant. Dans la révélation de Daniel, dans les 7 chapitres de la fin, il parle d'un fils d'homme. Et Jésus, quand il commence son ministère, dit, je suis le fils de l'homme. Comme pour dire, c'est de moi que Daniel avait parlé. Je suis là aujourd'hui. je remplis pleinement cette fonction de ce Dieu qui doit être révélé et adoré. Quelle leçon tirer, bien-aimé? Dans une année qui commence, les épreuves sont aussi le lot de notre humanité, n'est-ce pas? Elles se manifesteront pas toujours en termes d'un ennemi, d'une adversité, mais elles ont divers visages, les épreuves de la vie. Elles ont divers noms, les épreuves de la vie. Ma prière, mon vœu, pour vous, bien-aimés, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Dieu que vous connaissez, le Dieu que vous servez, le Dieu qui s'est révélé à vous en Jésus-Christ, dans lequel vous persévérez, soit celui qui vous délivre de toutes les épreuves qui vont être là en cette année. Daniel, Dieu aurait pu dire, tu ne vas même pas être jeté dans la fosse aux lions. Il a été quand même jeté dans la fosse aux lions. Donc les épreuves, parfois on va les déguster quand même. Et bien déguster. Par contre, la leçon c'est que Dieu sera toujours présent. Et qu'il nous en délivrera, certainement. Mais à l'heure que lui, il aura décidé. Il aurait pu l'arrêter avant que Daniel ne soit jeté. Il a fait après qu'il soit jeté. Pour dire que c'est lui qui décide des temps et des circonstances. C'est lui qui décide à quel moment il intervient dans les combats. Et que peut-être ça, on ne le dit pas assez. Et ça fait qu'on est parfois frustré. Ou on est parfois en doute vis-à-vis de notre Dieu. Il intervient toujours, mais selon le décret que lui, il a pris. Et c'est cette leçon que j'aimerais que nous gardions pour l'année 2020. Mon Dieu, il me délivrera certainement. Mais pas forcément à l'heure que j'attends. Mais je lui fais confiance, comme Daniel. Quand ils ont été jetés dans la fosse aux lions, ils ont une phrase fameuse. Ils ont dit, ô roi, vis éternellement, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne pouvons pas adorer autre Dieu que l'Éternel, le Dieu de nos pères. Et ici, il ne le dit pas, mais il le vit. Même si ma vie doit être, je resterai fidèle au Dieu qui a été là pendant 66 ans dans ma vie, dans cet empire éloigné de chez moi. Je resterai fidèle. Est-ce que tu es prêt de basculer? Ressaisis-toi. Garde la main de ton Dieu dans ta main. Ne lâche pas sa main. Ne lâche pas sa main. Tu crois qu'il est en retard? Je ne sais pas. Mais d'après la parole de Dieu, il n'est ni en avance, ni en retard. Il est toujours à l'heure. Mais son heure, c'est lui seul qui le sait. C'est lui seul qui le sait. Sois persévérant. Attends-toi à lui. C'est pour cela que je formule ce deuxième vœu en cette année. Le texte de chapitre 6 finit en disant « Daniel prospéra ». Je prie que vous prospérez, bien-aimés frères et sœurs. Le thème prospérité que je formule pour vous n'est pas d'abord une prospérité matérielle, même si je veux ça aussi pour vous, mes bien-aimés. Le thème que je formule, c'est celui que l'apôtre Jean formule dans sa troisième lettre, quand il dit, l'ancien, donc il parle de lui, à mon bien-aimé cher Gaius, que j'aime dans la vérité, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. L'accent ici tombe sur le spirituel. Il dit, Gaius, tu es cher à mon cœur. Ce que je souhaite pour toi avec toute la force de mon affection, c'est que ton âme prospère, ta vie spirituelle aille de l'avant, ta qualité de fidélité avec ton Dieu, ta qualité de l'amour de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, ton engagement avec ce Dieu, que les valeurs que tu as comme priorité dans ta vie soient des valeurs qui te viennent de la parole de Dieu. Il dit, car votre Dieu sait que vous avez aussi besoin des choses matérielles. Et c'est Jésus qui l'a dit dans l'évangile de Matthieu. Car Dieu sait que nous avons aussi besoin des choses matérielles. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Prions. Te bénissons, notre Dieu. Nous te célébrons, notre roi. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui s'est révélé à nous. Si ce n'est pas le cas, continue à te révéler à ceux ou à celles qui sont en chemin dans cette salle, notre Dieu. Qui ont entendu, qui voient et qui se doutent qu'il y a quelque chose, mais qui n'ont pas encore. Fais cette paix avec toi, cette alliance avec toi. Continue, s'il te plaît, à te révéler à eux. Pour nous, dont ta révélation a été aussi claire, donne-nous d'avancer, de progresser. Si certains d'entre nous étaient en train de reculer, de regresser, s'il te plaît, viens à leur secours, relève-les, tiens-les. Pousse-les de l'avant dans ta grâce, notre Dieu. S'il y en a qui avaient vraiment lâché et que tu as fait venir aujourd'hui, merci parce que tu leur permets de reprendre ta main. Parce que ta main, elle est toujours tendue. Béni sois-tu, notre Dieu. Là où il y a encore des combats féroces dans la vie de mes bien-aimés, Seigneur, comme pour Daniel, viens remporter la victoire, s'il te plaît. Et montre-leur que tu es le Dieu qui délivre. Que tu es le Dieu qui délivre et qui restaure. Donne-nous de prospérer en cette année 2020. Nous voulons d'abord prospérer spirituellement, notre Dieu. Et comme dit cette promesse, nous attendons aussi de toi que tu bénisses l'ouvrage de nos mains, que tu bénisses ce que nous faisons dans la vie pour gagner notre pain. S'il te plaît, notre Dieu, en Jésus-Christ.